Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, il faut sauver la planète. Répétée sur tous les tons, matraquée par tous les moyens, dès l'école maternelle, cette affirmation a tendance à devenir un mantra, comme si cette urgence était absolue et nouvelle. Il n'en est rien, car il y a près de 2000 ans déjà, écrivant aux Romains, Saint Paul appelait à sauver non seulement la planète, mais tout l'univers, toute la création qui gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Cette affirmation de l'apôtre, qui peut sembler difficile à comprendre, est au cœur de sa pensée. Elle nous introduit dans sa vision du monde, une conception purifiante et salutaire aux antipodes des fausses lectures de l'écologisme absolu ou du transhumanisme. Pour lui, d'abord, la création est solidaire de notre chute. Elle a été, elle aussi, soumise à la vanité du péché, par la faute de celui à qui elle avait été confiée. Ainsi, l'univers entier porte la blessure d'Adam. Ce qui se trame dans l'âme humaine retentit sur l'être profond du monde. Le péché, désordre en l'homme, désoriente à sa suite le cosmos qui l'entraîne dans sa chute. Mais saint Paul ne s'arrête pas sur cette considération pessimiste, car l'univers espère. Comme la nature humaine, la création est blessée mais pas condamnée, et elle attend avec impatience sa rédemption, la révélation des fils de Dieu. Un jour, la création sera sauvée, libérée du péché. Cette vérité, sans doute au cœur de la réflexion mais aussi de la contemplation de saint Paul au long de ses voyages à travers les montagnes ou sur la mer, nous évite de tomber dans les erreurs de l'écologisme absolu et du transhumanisme. L'un sacralise la nature aux dépens de l'homme, en oubliant que blessée à travers lui, elle ne pourra être rachetée que par lui. L'autre rêve de réparer, voire d'améliorer la création par nos propres moyens, comme si nous pouvions remplacer Dieu. De cette grande idée de saint Paul, retenons que ce que nous faisons de notre âme intéresse l'univers, et qu'ainsi, en vertu de cette solidarité profonde entre l'homme et le cosmos, ce que nous faisons de notre âme, notre conversion, notre péché, chacun de nos actes, a un poids vertigineux, un poids cosmique. Qu'est-ce que cela doit changer pour nous, dans le concret de notre vie? L'évangile de ce jour apporte une réponse, pas en abstraction ou en grande théorie, mais en nous amenant, à l'aube, sur les bords du lac de Tibériade. Là, nous trouvons Jésus. Longeant la rive, il aperçoit deux barques qui rentrent de la pêche. Les marins sont fatigués et dépités, ils n'ont pas pris un seul poisson. Savez-vous que la pêche sur le lac de Tibériade, jusqu'à aujourd'hui, use d'une technique particulièrement laborieuse? On utilise un grand filet, long et étroit, qu'on déploie en arc-en-ciel entre deux barques pour encercler le banc de poissons. Une sorte de filet de tennis dans lequel on va essayer d'enfermer les poissons. C'est tout l'inverse de la pêche à la ligne, où l'on attend tranquillement que le poisson morde à l'hameçon. Non, là il faut aller chercher le poisson, le rabattre, le coincer, le tirer sur la berge. On peut dire que les chances sont très équitables. Et Pierre et ses collègues, qui ont tout fait selon les règles, n'ont rien pris. Rien. Une nuit pour rien. L'expérience, l'effort, l'habileté n'ont pas suffi. Alors, Jésus prend la parole. « Duc in altum, avancez en eau profonde. » Le jour s'est levé, or on pêche de préférence la nuit sur le lac de Tibériade, pour éviter que les poissons ne voient la nasse. Et on pêche en eau profonde, en eau peu profonde, pour qu'ils ne puissent pas s'échapper par en dessous. Ce que Jésus demande est absurde selon la logique du pêcheur. Mais Simon accepte de le faire sur la parole du Christ. Et le filet se retrouve plein à craquer. Ce n'est pas seulement un prodige, un miracle qui va renflouer les caisses de la petite entreprise halieutique. C'est une révélation. Jésus nous apprend que ce que nos propres forces ne peuvent parfois pas réaliser, malgré toutes nos industries, ce que nos propres forces ne peuvent pas réaliser peut advenir cependant au moment le plus inattendu, peut advenir par la foi. Notre collaboration à l'œuvre de création de Dieu passe par notre travail, certes, par notre persévérance, par nos efforts, mais cela ne peut aboutir sur rien sans l'aide de la grâce de Dieu. Ainsi, la préservation et la sauvegarde de la création, dans l'état blessé où elle se trouve par le fait du péché originel, ne pourra être assurée autrement que par l'œuvre de la grâce, qui est l'unique moyen voulu par Dieu pour notre rédemption. Oui, la création gémit dans les douleurs de l'enfantement parce qu'elle attend la révélation des fils de Dieu. Simon, qui s'appellera bientôt Pierre, vient d'en vivre une annonce anticipée. Il s'est montré déjà fils de Dieu en ayant cette totale confiance dans la parole de Jésus, Duc in altum, avance au large. Et nous aussi, nous jetons nos filets dans la nuit de notre existence, en essayant de rester en eau peu profonde pour ne pas nous noyer, que ce soit dans notre travail, notre famille, notre apostolat, notre vie de prière. Mais souvent, c'est en vain. Alors le Seigneur nous dit, à nous aussi, « Duc in altum, avance en eau profonde, pour que se révèle en toi ta véritable nature de fils de Dieu, celle que toute la création attend, elle qui gémit dans les douleurs de l'enfantement. » Si nous obéissons, si nous faisons confiance, si nous acceptons de plier devant la parole qui se fait chair, alors quelque chose se répercute sur le monde entier. Parce que c'est cela que la création attend de nous, chers frères et sœurs. Ce que nous faisons de notre âme intéresse et peut sauver tout l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.